Bonsoir, très cher Tala. Nous accueillons Madame Caroline Sader, aumônier de prison, qui venait nous parler de votre mission. Et vous êtes aussi avocate à Paname. Cher monsieur de Castres, merci d'être venu d'HEC à Athos en passant par Deloitte. Vous venez témoigner, que l'Assemblée soit quoite, de votre engagement auprès des détenus.
Ça va ? Ça bouge pas trop ? Bonsoir à tous. Alors, peut-être vous dire deux mots de plus que ce qui vient de vous être présenté pour que vous sachiez un tout petit peu qui on est. Donc moi, effectivement, je m'appelle Caroline Sader, j'ai 43 ans. J'ai exercé comme avocate pendant 14 ans au barreau de Paris. J'ai fait beaucoup de contentieux, droit pénal des affaires, droit commercial, etc. C'est une profession que j'ai beaucoup appréciée, que j'ai quittée maintenant il y a 5 ans. Et depuis, je suis administratrice dans des conseils d'administration et 2 jours par semaine en détention. Voilà, et donc c'est ça dont on va vous parler plus précisément ce soir. Et par ailleurs, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants qui ont entre 14 ans et 8 ans. Voilà.
Tu veux dire un peu plus ? Oui. Donc Jean de Casse, bon, Guillaume a presque tout dit. Donc voilà, je suis beaucoup plus âgé que Caroline, puisque je vais avoir 70 ans, et je suis père, grand-père, et j'ai été dans le monde de l'entreprise, en dirigeant des entreprises dans le monde du service, du conseil et de l'informatique pendant plusieurs années. Et puis, en fait, quand j'étais à HEC, puisque on a parlé, il y avait une association qui, à l'époque, venait d'être créée. C'est le président Giscard d'Estaing qui en avait demandé la création. Cette association s'appelait le Génépi. Et l'objectif du Génépi, c'était... L'objectif du Génépi, c'était de mettre des étudiants dans les prisons parce qu'il venait d'y avoir des émeutes qui avaient... Et ça avait été réprimé, c'était en 75, de manière épouvantable. Donc il y avait eu des morts, etc. Et Giscard, qui venait d'être élu, avait dit « c'est un monde moyenâgeux, il faut ouvrir les fenêtres, donc on va faire venir des étudiants en prison pour qu'ils puissent rencontrer les prisonniers, donner des cours, etc. » Et c'est comme ça que, quand j'étais étudiant, ça a été mon premier contact avec la prison, et je me suis toujours dit que je recommencerai quand j'aurai le temps, et donc il a fallu attendre 45 ans, ma retraite, pour que je puisse recommencer dans le monde de la détention.
Voilà, donc ce qu'on vous propose ce soir, c'est peut-être en quelques minutes de vous planter un peu le décor, de vous expliquer... Nous, on est aumôniers de prison à la prison de la Santé. On est attachés à un lieu. Donc, la prison de la Santé, c'est la seule prison qui est dans Paris intramuros. Toutes les autres grosses prisons sont en région parisienne. Donc on va un peu vous planter le décor, vous expliquer à quoi ça ressemble, la prison de la Santé, qui on y croise, qu'est-ce qu'on y vit. Ensuite, en quelques minutes, on vous présentera un peu l'activité de l'aumônerie catholique au sein de cet univers. Et ensuite, on vous parlera plus longuement et plus en détail de la partie visite individuelle des détenus en cellule, qui est ce qui occupe le plus gros de notre temps, si ça vous va. Et puis on sera bien sûr ravis de répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc pour vous planter un petit peu le décor, donc la prison de la Santé, c'est une maison d'arrêt. Une maison d'arrêt, ça veut dire que normalement c'est fait soit pour les personnes prévenues, donc qui ne sont pas encore jugées, qui sont en attente de jugement, qui sont en détention provisoire. Il y en a 56% à la prison de la Santé. Soit de personnes déjà jugées, condamnées pour des courtes peines. Ce qu'on appelle courtes peines, c'est des peines inférieures à 2 ans. Donc en théorie, on se dit qu'une maison d'arrêt, c'est normalement des profils un peu plus légers qu'un centre de détention. Dans la pratique, dans la population des prévenus, il peut tout à fait y avoir des personnes qui, en fait, encourent des peines très lourdes, mais qui, simplement, comme ils ne sont pas encore jugés, sont là pendant leur détention provisoire. Et il peut aussi y avoir des personnes qui ont été condamnées à des peines longues, voire très longues, mais qui ont interjeté appel et qui, dans l'attente de leur procès en appel, restent encore en maison d'arrêt et n'iront en centre de détention que lorsqu'ils seront définitivement condamnés. Donc tout ça pour dire que, alors qu'en théorie, on serait censé rencontrer des profils plutôt moins lourds que dans les centres de détention. En réalité, on a vraiment une grande, grande, grande variété de profils, y compris des personnes qui sont là pour plus de 20 ans. Et donc, ça, voilà, une population très, très hétérogène. En ce moment, il y a 1300 personnes à la prison de la santé, 1300 détenus, pour une capacité officielle de environ 800 places. Donc vous imaginez voilà, une surpopulation évidente qui donne lieu à voilà, beaucoup de promiscuité, des matelas par terre, une cellule, ça fait 9 mètres carrés. Donc voilà, quand on est deux ou trois, dans certains cas, dedans, vous imaginez à quoi ça peut ressembler. Il y a entre 450 et 500 personnes qui travaillent dans l'établissement. Entre les surveillants, les membres de l'administration pénitentiaire, etc. C'est aussi des interlocuteurs pour nous, des personnes qu'on croise au quotidien. Il y a 20% d'indigents. Un indigent, c'est une personne qui vit avec moins de 50 euros par mois. C'est le seuil qu'a fixé l'administration pénitentiaire pour définir cette catégorie. Donc c'est une proportion qui est élevée, qui est sans doute liée au fait que la prison de la santé est dans une grande ville et que donc il y a une population de personnes qui vivent dans la rue et qui sont sujettes à une forme de délinquance un peu chronique et qui en fait rentrent, sortent et qui en sont à leur 17e, 23e peine de prison, etc. Donc ça, voilà, beaucoup de personnes indigentes. 80% des détenus ont moins de 40 ans. Ça vous donne un peu une idée voilà, de la pyramide des âges. Et 40% des détenus sont de nationalité étrangère, dont une proportion assez forte qui ne sont pas du tout francophones. Donc on a aussi beaucoup de difficultés de se faire comprendre, parce que bien évidemment, il n'y a pas de traducteur en prison. Donc voilà, donc ça c'est une réalité aussi de l'univers dans lequel on évolue. Quelques chiffres juste sur les problématiques de santé mentale, parce que c'est un gros, gros enjeu en prison. 38% souffrent d'addiction. Voilà, 38%, plus d'une personne sur trois qui souffre d'addiction. Et alors, une chose, moi, que j'ai apprise en prison, que je ne savais pas avant, c'est que l'addiction la plus difficile à traiter et à surmonter dans le milieu carcéral, qu'est-ce que vous diriez ? Non. En fait, c'est le tabac. Aussi bizarre que ça puisse paraître, parce qu'on a l'impression pour nous que fumer, c'est pas le comportement le plus dangereux ou le plus grave qui soit, quand on compare à des drogues dures ou des choses comme ça. En fait, il y a un certain nombre d'addictions qui peuvent être prises en charge, notamment par des traitements de substitution. Alors que le tabac, une personne qui est gros fumeur et qui est en manque de tabac, ça va donner lieu à des comportements d'une violence extrême contre les autres et contre lui-même. Donc ça, c'est des psychiatres qui nous ont expliqué tout ça. Donc c'est pour vous expliquer que voilà, le tabac, c'est un gros, gros, gros enjeu en prison. 7% souffrent de troubles psychiatriques graves. Donc ça, c'est des personnes qui normalement ne devraient pas avoir leur place en prison, mais plutôt dans un hôpital psychiatrique, y compris dans des services d'incarcération. Mais voilà, donc ça, il y a un gros déficit de place dans ces services-là. Donc c'est des personnes qui se retrouvent en prison alors qu'elles devraient être ailleurs. 40% qui souffrent de dépression, 30% qui souffrent de troubles anxieux. Et d'une manière générale, le risque suicidaire est 7 fois supérieur en prison que dans la population générale. Et dans les quartiers des nouveaux arrivants, ça monte même à 10 fois. Parce que voilà, le quartier des nouveaux arrivants, c'est tous ceux qui sont là depuis moins de 15 jours. Et là, il y a un choc carcéral qui est lié à l'enfermement, tout simplement. Et donc ça, c'est un moment où le risque suicidaire est maximal. Voilà, ça c'était pour vous planter un peu le décor, que vous imaginiez un peu le type de personnes qu'on rencontre entre ces murs. Alors, à l'intérieur de cet univers, l'aumônerie catholique est une des aumôneries. On n'est pas du tout les seuls. J'ai compris qu'à Normal Sup, il n'y avait pas beaucoup d'autres aumôneries que l'aumônerie chrétienne. Nous, on a des confrères aumôniers. En France, il y a 7 cultes agréés. À la prison, il y en a en ce moment 5 ou 6. Donc il y a évidemment les catholiques, les protestants, les orthodoxes. Les témoins de Jéhovah sont un culte agréé en France. Le culte israélite, le culte musulman et les bouddhistes, mais ouais, qu'on voit très peu, qui ne sont pas représentés en ce moment, mais ils auraient le droit d'avoir des représentants. Voilà. Donc on est un culte parmi d'autres et on est, comme vous, en terre de laïcité. Donc on doit composer avec... voilà, on n'arrive pas... on n'est pas chez nous, quoi. On vient dans un univers très réglementé, très codifié, avec des règles à respecter, et on prend grand soin de pas dépasser de ça. Je vous disais, 1300 détenus. Sur les 1300 détenus, il y en a à peu près 200 qui sont sur les listes de l'aumônerie catholique. Donc c'est des personnes, ça ne veut pas dire que c'est des chrétiens pratiquants qui vont à la messe tous les dimanches, loin de là. Ça veut dire que c'est des personnes qu'on a rencontrées au moins une fois et qui nous ont dit « Oui, je souhaite vous revoir et je souhaite rester en contact avec l'aumônerie d'une manière ou d'une autre. » Voilà, donc ça va du gris clair au gris foncé. Il y a toutes les sortes de liens avec l'aumônerie. Il y a certaines personnes qu'on ne fait que visiter une fois de temps en temps, mais c'est déjà pour eux un contact avec l'aumônerie, un lien régulier. Et puis il y en a d'autres qui participent à toutes les activités proposées par l'aumônerie. Voilà, donc il y a vraiment toute cette palette de personnes. Mais donc en gros, vous voyez à peu près entre 180 et 200 personnes qu'on connaît, qu'on suit, qu'on voit régulièrement. Alors, l'aumônerie catholique, on fait principalement trois choses. On organise les cultes en détention, donc on organise toutes les semaines une messe dans le gymnase de la Santé. Il n'y a pas de chapelle à la Santé, il y en avait une historiquement, il n'y en a plus aujourd'hui. Donc on organise une messe tous les dimanches matins qui rassemble 50-60 détenus à peu près. Donc pour l'occasion, on transforme le gymnase en chapelle. C'est assez beau d'ailleurs parce que les détenus s'y mettent, tout le monde s'y met. On installe des tables, des tentures, un hôtel de briques et de broc, etc. On met des fleurs, on met tout ce qu'on peut pour que ce soit beau. Et ça, c'est un très très beau moment. C'est des prêtres de l'extérieur qui viennent célébrer. Il y a aussi des équipes d'intervenants du dimanche qui viennent de différentes paroisses ou groupes d'aumônerie étudiantes, etc., qui viennent nous donner un coup de main. Ça, c'est notre première mission, notre première raison d'être dans cet univers. La deuxième, c'est des activités collectives qu'on organise. Donc, il y a un groupe biblique tous les samedis matins qui regroupe entre 10 et 15 détenus et qui a vocation à travailler sur les textes de la messe du lendemain. Donc, c'est vraiment pour creuser les textes, méditer, se les approprier, voir comment ça résonne dans leur vie, etc. Groupe biblique le samedi matin. Il y a un parcours de catéchisme pour tous, qui était un peu sur le format des parcours alpha, pour ceux qui connaissent, qui correspond bien à tous ceux qui sont un peu des recommençants, tous ceux qui ont eu dans leur enfance quelques bribes d'éducation chrétienne, qui ont tout envoyé promener pour des raisons variées, et qui, à la faveur de cette incarcération, voilà, veulent recreuser, se repencher sur ces sujets-là. Et il y a un groupe chant, ça c'est un très beau moment, tous les mardis après-midi, un groupe chant de détenus à qui on apprend à psalmodier, et qui adorent ça, et qui se prennent vraiment au jeu, donc c'est intéressant et vraiment de voir qu'ils mettent tout leur cœur avec plus ou moins de talent, mais toujours beaucoup d'enthousiasme et de motivation, donc ça c'est vraiment... Et donc ensuite c'est eux qui animent la messe du dimanche et qui font chanter tout le monde, etc. Donc voilà, vous voyez les trois activités, organisation des cultes, activité collective et les visites individuelles en cellule. Voilà, et c'est ça dont on voudrait vous parler plus ce soir, parce que c'est ça, Jean et moi et d'autres, qui occupent le plus clair de notre temps, à raison de 2 jours par semaine, donc tous les mardis et tous les jeudis. Alors, ce qu'il faut... Donc l'environnement, vous l'avez compris, c'est un environnement brutal, assez violent, très bruyant, où les portes claquent et les grilles grincent et font du bruit. Un environnement très, très minéral, très dur, où on ne voit pas la couleur du ciel, où on ne voit pas de plantes ou d'arbres. Les détenus passent 22 heures sur 24 dans leur cellule. Hein, ils prennent tout leur repas seuls, enfin dans leur cellule. Hein, il n'y a pas de réfectoire ou quoi que ce soit. Et donc nous, dans cet univers très particulier, on nous confie les clés des cellules. On a un petit jeton qu'on laisse à l'entrée en échange d'un jeu de clés d'un des bâtiments, du bâtiment qu'on a prévu de visiter ce jour-là. Et alors, j'insiste là-dessus parce que les clés, c'est un symbole très très fort en prison. En fait, les aumôniers sont les seuls intervenants extérieurs à qui on confie les clés. C'est, je pense, un peu une résurgence d'une époque ancienne où la peine de mort existait encore en France et où l'aumônier devait pouvoir se déplacer partout dans la cellule à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et aujourd'hui, on est un peu les héritiers de ça, et la présence des aumôniers en cellule est vraiment précieuse, parce que tous les autres intervenants, que ce soit pour le médical, les infirmières qui doivent changer des pansements tous les jours, les professeurs, les parloirs, les avocats, les familles, etc., etc., tout ça, ça se passe au rez-de-chaussée, dans des zones bien prévues pour ça, dans des parloirs, dans des salles de cours, etc. Les seuls qui montent dans les étages, qui vont dans les coursives et encore plus qui vont dans les cellules, c'est les surveillants et les aumôniers. Il n'y a personne d'autre. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Et les surveillants n'ont pas le droit d'entrer dans les cellules. Les surveillants doivent rester à la porte des cellules. Ils doivent être autorisés quand ils veulent faire une fouille en cellule, par exemple. Il leur faut une autorisation spéciale. Alors que nous, aumôniers, on a cette prérogative d'avoir le droit d'ouvrir les de frapper, de se présenter et d'entrer dans les cellules et de venir partager un moment avec les détenus. Et pourquoi c'est si important ? Parce que en entrant dans la cellule, donc dans le lieu de vie d'une personne détenue, tout à coup, vous devenez l'accueilli. C'est lui qui vous accueille. C'est lui qui vous ouvre, qui vous permet d'entrer. C'est la seule liberté qui lui reste, si je peux dire, c'est de refuser ou d'accepter cette visite. Et en entrant chez lui, on prend vraiment la posture de celui qui est accueilli, de celui qui vient proposer un échange, une discussion. Mais c'est lui qui nous accueille dans son lieu de vie. Et puis, ça nous donne accès à plein de petits éléments de communication non verbale, je dirais. C'est-à-dire qu'on voit les photos des enfants accrochés sur les murs. On voit si le détenu a une pile de vaisselle en retard, si la cellule est répugnante, si la personne est dans le noir en plein milieu de la journée, si la personne... Il y a plein de choses comme ça qui nous donnent des indications précieuses sur ce que vit la personne en ce moment, sur son état, son moral, Et donc tout ça nous permet d'entrer en contact de manière plus personnelle, plus intime, et d'aller un peu, tout de suite au cœur des sujets. Tu peux rajouter quelque chose à ce stade, non ?
Non, c'est ça, c'est que la cellule, c'est la maison, c'est le domicile du détenu. Et donc, on va chez lui. Et comme le dit Caroline, c'est lui qui nous accueille. Et c'est important, comme le dit Caroline, de regarder ce qu'il y a dans la cellule. Bon, parfois, il faut faire un effort pour rentrer tellement ça pue, excusez-moi, mais tellement c'est dégueulasse. Mais c'est important d'y aller. Et puis, vous avez des détenus qui ont des graves problèmes psychiatriques. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de place dans les prisons psychiatriques. Donc, les détenus qui ont ces problèmes graves sont laissés dans les prisons « normales », entre guillemets, mélangés aux autres détenus. Et donc, c'est un énorme problème. Ça crée des problèmes d'hygiène, ça crée des problèmes de violence, etc., mais le système pénitentiaire français étant engorgé, il n'y a pas d'autre choix. Et donc, c'est important de regarder comment est la cellule pour savoir un peu à qui on a affaire. Parce que quand on rentre dans une cellule, on ne sait pas toujours à qui on a affaire. Il faut essayer de sentir est-ce qu'on est accueilli, est-ce qu'on n'est pas accueilli, et puis voir un peu... jusqu'où on peut aller dans la discussion avec les personnes. Et finalement, ça se sent assez rapidement. Et il y a des choses marrantes, je te repasse la parole après, par exemple. J'étais dans une cellule, je tombe sur un garçon musulman qui a absolument voulu me convertir. Et alors, je me suis dit, je vais le laisser parler parce que c'est intéressant de voir quels arguments il prend. Donc, montre en main, pendant 20 minutes, il n'a pas lâché le crachoir, il m'a débité tous les arguments classiques qu'emploient certains musulmans, notamment les plus radicalisés, et puis au bout de 20 minutes, il m'a dit « Merci pour cette discussion
». Alors, la règle en prison, c'est que normalement, on ne peut aller voir un détenu que s'il en a fait la demande. C'est eux qui doivent être à l'initiative de notre rencontre. Il y a une exception à cette règle, c'est pour le quartier des nouveaux arrivants. C'est tous ceux qui sont là depuis moins de 15 jours sont tous regroupés au même endroit. Ils ont un petit parcours d'accueil où on leur explique... parce qu'ils ont des entretiens avec les médecins, des soins, des tests à faire, etc. On leur fait visiter un peu les ateliers, etc. Et donc, nous, on essaye de manière assez rigoureuse et régulière d'aller au moins une fois par semaine au quartier des nouveaux arrivants, parce que c'est le seul endroit où, en théorie, on a le droit d'aller faire du porte-à-porte, frapper à toutes les portes, se présenter, expliquer qui on est, Le corollaire de ça, c'est qu'on doit présenter tous les cultes. Donc, on a le droit d'aller voir qui on veut, mais on doit leur dire, voilà, nous, on vient au titre de l'aumônerie catholique, sachez qu'il existe aussi, etc., etc. Et ça, c'est un moment très important parce que ça nous permet de voir tous ceux qui arrivent et ensuite de recueillir leurs souhaits, leurs désirs, savoir si oui ou non ils veulent rester en contact avec nous, s'ils veulent qu'on les inscrive sur nos listes, qu'on les inscrive au culte, qu'on les inscrive au groupe biblique, à la messe, etc., etc. Parce qu'ensuite, une fois qu'ils partent dans tous les bâtiments de la détention ordinaire, après, pour nous, c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à eux parce que, en bonne logique, il faut qu'à ce moment-là, que ce soit eux qui nous écrivent et qui nous demandent, ou un détenu avec qui on est déjà en lien, qui nous signale qu'il a rencontré un chrétien dans sa cour de promenade ou dans sa coursive, etc. Mais en tout cas, on peut moins facilement prendre l'initiative. Donc y a ce quartier des nouveaux arrivants. Et puis c'est aussi un lieu, comme je vous le disais tout à l'heure, où le risque suicidaire est maximal, où les personnes sont au fond du trou et ont un sentiment d'abandon épouvantable. Souvent, ils sortent d'une garde à vue très éprouvante. Pour tous ceux pour qui c'est la première incarcération, c'est le monde s'écroule, quoi. Ils n'ont pas encore de contact avec l'extérieur parce que les parloirs mettent du temps à être autorisés. Donc ils se font énormément de soucis pour ceux qui sont restés dehors. Donc c'est un moment où en fait c'est important d'aller à leur rencontre, de passer un moment gratuit à échanger, à discuter, à essayer de les introduire dans cet univers dont ils ignorent tout, à leur donner quelques codes, et puis juste à leur dire qu'on est là et qu'on est avec eux et qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on ne va pas les abandonner. Voilà. Bon. Donc ça, ce quartier des nouveaux arrivants, on met beaucoup d'attention sur ça parce que c'est un lieu important. Une chose aussi sur laquelle je voulais insister, c'est de dire qu'on vient à leur rencontre les mains vides. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire la liste de courses de ce qui leur manque, pour apporter... un blouson, des chaussettes, des lunettes, du tabac, encore moins. Donc on vient vraiment les mains vides. On vient pour passer un moment gratuitement, les rejoindre là où ils en sont et cheminer ensemble à leur demande et en fonction de leurs besoins. Quelques petites exceptions, c'est-à-dire qu'on distribue des objets religieux, des magnificats, des prions en église, des chapelets, des médailles miraculeuses.
C'est inoffensif.
Voilà. Donc ça, oui. Et d'ailleurs, c'est très apprécié, très demandé. Donc voilà. Mais donc on vient, voilà, ce principe de « on vient les mains vides » et ils le savent et c'est, ça fait partie de la rencontre. Ouais. Alors, comment se déroule un entretien ? Parce que vous vous demandez peut-être « mais qu'est-ce qu'on peut bien leur raconter ?» Donc en fait, on part de choses très 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 pratico-pratiques. On part de leurs besoins primaires. On commence toujours par « est-ce que vous arrivez à dormir ? Est-ce que vous arrivez à manger ? Est-ce que vous sortez en promenade ?» comment ça se passe avec votre co ? Est-ce que vous avez des contacts avec l'extérieur ? Voilà, on commence toujours par passer un moment vraiment ras des pâquerettes, si je puis dire, en partant de leur quotidien, leur vécu, aujourd'hui, hier, avant-hier, voilà, vraiment le concret du concret. Et puis, à partir de là, petit à petit, on essaye de comprendre qui est la personne, quel est son environnement, d'où il vient, s'il a des contacts avec l'extérieur, dans quel contexte il a grandi, il a évolué, etc. etc. C'est vraiment une attitude d'écoute active. C'est-à-dire qu'on relance, on pose quelques questions, mais on les laisse parler, on les laisse... on est vraiment là pour les écouter. Et bien souvent, donc ils savent qu'on vient au titre de l'aumônerie chrétienne, et bien souvent, en fait, ce qui est assez beau, c'est que la question de Dieu émerge... au milieu de tout ça. Et bien souvent, c'est eux qui disent « j'ai grandi dans une famille croyante » ou « je suis rattachée à telle religion », etc. Donc, et puis, à partir de là, on essaye de les rejoindre là où ils en sont, de comprendre leur vécu, de comprendre leurs blessures, de comprendre...
c'est important, ça. Vous voyez, ouais. on ne cherche jamais à convaincre, à démontrer, etc. On essaye d'abord, avant tout, de faire un cœur à cœur, d'où le titre de ce qu'on veut vous dire ce soir. Ce qui est important, c'est d'arriver à nouer un contact avec la personne. Et il y a des détenus qu'on voit, on peut les voir 3 fois, 4 fois, 10 fois. Ça ne va pas forcément déboucher sur du spirituel, mais on crée une relation, on crée un contact, on crée un cœur à cœur. Et... à un moment ou à un autre, il se passe quelque chose. Mais il faut être d'abord patient et deux, n'attendre aucun résultat. On arrive les mains vides, on ne sait pas ce qui va se passer, on accueille, et puis voilà, on voit ce qui se passe, et il se passe des choses extraordinaires. Je laisse Caroline en
parler. Alors, juste, je vous donne cette petite anecdote parce que ça pourra vous servir dans vos actions d'évangélisation si un jour vous en avez. Une question pour amener un détenu sur la question de la foi et de la religion, parce que quelquefois, c'est pas évident quand il nous parle de plein d'autres choses et qu'on a envie d'en savoir un peu plus sur ce terrain-là. On s'est rendu compte que demander à quelqu'un « Est-ce que vous êtes croyant ?» c'est un peu brutal comme question. Et en fait, c'est une question un peu binaire. Oui, non, c'est pas facile de se positionner. Est-ce que vous êtes croyant ? Et en fait, il y a un petit mot qui change tout, qui nous aide beaucoup. Quand on dit « Est-ce que vous êtes de tradition croyante ?» Et alors là, ça va vous paraître vraiment une nuance ou un détail. Mais en fait, à cette question « Est-ce que vous êtes de tradition croyante ?» tout le monde a quelque chose à répondre. Tout le monde peut dire « Moi, j'ai eu une grand-mère qui m'emmenait à l'église. Moi, j'ai été dans une école chrétienne. Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane, etc. » Tout le monde peut se positionner par rapport à cette question. C'est une question qui ouvre et c'est pas une question qui ferme, vous voyez ? Et donc, voilà, vous pouvez mettre ça dans un coin de votre tête. Est-ce que vous êtes de tradition croyante ? C'est une bonne manière d'entrer en matière et de ensuite creuser. Et puis alors, une des choses qu'on vit beaucoup, beaucoup, beaucoup en détention, c'est de mettre la personne détenue en contact avec la parole de Dieu. Parce que, vraiment, nous, on a cette certitude et cette conviction, et on est les témoins que la parole de Dieu, elle est vivante, et elle les rejoint, elle les touche, elle les touche au cœur. Et je ne peux pas vous dire le nombre de cas où j'ai vu des personnes quasiment illettrées, ou vraiment très, très, très loin d'un point de vue niveau scolaire, ou d'un point de vue éducation générale, d'un point de vue compréhension intellectuelle, etc. Eh ben, on lit un psaume ensemble, on lit 5 versets, 10 versets d'un évangile. Eh ben, ils ont comment je peux vous dire ça ? Ils ont accès à une part de la révélation. C'est-à-dire que c'est étonnant. Moi, c'est ça une des choses qui m'émerveille le plus en prison, c'est de voir à quel point certaines personnes qui sont vraiment pauvres au sens intellectuel du terme ont une compréhension du mystère de Dieu, alors même qu'ils n'ont pas reçu de formation pour ça, voyez ?
Oui, je vais vous lire. Il y a un détenu qu'on a vu à quelques reprises, qui est de tradition musulmane, et avec son style à lui, un détenu en fait qui était en transition de genre, puis tous ses médicaments quand il a été incarcéré ont été arrêtés, donc il est redevenu un homme, c'est pour ça qu'il est à la prison de la santé. Et au premier abord, vraiment, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui ? Et cet homme a été illuminé par la découverte des psaumes. Il nous dit, je me permets de vous décrire, car je vous ai fait une prière pour vous remercier de votre visite à moi. Vous voyez, le niveau culturel est...
syntaxique.
Pour vous, une visite à moi et tous les autres. Voici ma prière pour vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ô mon Dieu, récompense les bénévoles catholiques et autres, mais en particulier les personnes que j'ai rencontrées. Ô mon Dieu, faites que leur... Je vous passe les fautes d'orthographe. Hein, que leur vie soit pleine d'amour, autant que l'amour que tu nous portes à nous. Je prie pour ces personnes qui, malgré que je sois de conviction musulmane, m'ont fait découvrir le véritable amour de Dieu. Ô toi, mon Dieu, qui connais mes souffrances, et tu connais aussi la place que tu as dans mon cœur, mon Dieu béni, ces personnes qui pour moi sont des guides, accueille-les dans ton paradis le plus beau. Amen. Vous voyez, j'ai encore de l'émotion en lisant. Quand on voit la personne qui l'a écrit, voilà, vous voyez, c'est les Fioretti qu'on a en prison. Ces personnes qui sont touchées à un moment par l'amour du Seigneur, que le Seigneur rejoint. Et parfois, c'est des personnes qui ont fait des crimes abominables. Et ben, le Seigneur passe. Et on le découvre à un moment. Cette personne qui était fermée, hostile, etc., enfermée par le poids de son crime, à un moment, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur qui passe et qui l'ouvre. et qu'il projette vers les autres. C'est, voilà, on ne se lasse pas de contempler ça.
Alors, un autre exemple d'une rencontre qui nous a beaucoup marqué aussi à l'aumônerie. Je vais vous raconter rapidement l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Samuel. Quand on l'a connu, il avait 23 ans. Samuel, il a quitté l'école en CP. Il a arrêté d'aller à l'école. Il vivait dans des bars d'immeubles, dans des quartiers assez défavorisés. Et puis un jour, il n'est pas allé à l'école et personne ne lui a demandé où il était, ni sa famille, ni à l'école. Et donc il s'est dit, bah, après tout, pourquoi j'y retournerai demain? Donc il a arrêté d'y aller et puis personne s'en est offusqué. Et il a commencé à traîner avec les gars de son quartier, à faire des petites bêtises, puis des moyennes bêtises, puis des grosses bêtises. Et puis, petit à petit, de fil en aiguille, il a vraiment plongé dans la délinquance lourde. Il a été ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil, etc. Et donc, ce garçon, quand on le rencontre, il en est à sa deuxième incarcération. Il est là pour à peu près 3 ans. Et bref... On passe beaucoup de temps à discuter avec lui, à lui faire raconter son histoire, etc., etc. Et puis, à un moment, il nous explique qu'il avait une grand-mère chrétienne quand il était petit, qu'il emmenait à la messe quand il était petit, mais que, bien sûr, il a tout envoyé promener, etc. Et je lui dis, mais est-ce que... il nous fait comprendre que Dieu a toujours eu une place dans sa vie. Et il dit, mais... quand j'étais petit, je parlais à Dieu, mais c'était toujours pour lui crier ma révolte, lui crier ma colère, lui dire « Mais Seigneur, c'est quoi cette vie que tu me donnes? C'est horrible, j'en veux pas, etc. » Donc je dis « Bah oui, mais vous savez, ce cri, cette colère, c'est déjà une forme de prière, c'est déjà une manière de parler à Dieu, de s'adresser à lui. » Et puis après, je lui dis « Et maintenant, Samuel, est-ce qu'aujourd'hui, vous priez encore? Est-ce que ça vous arrive encore de prier ?» Et là, il y a eu un gros blanc, un gros silence. C'est important, les silences. C'est important de respecter les silences et de laisser la personne habiter ce silence et sortir du silence quand elle le désire, le choisit. Et au bout d'un long moment, il dit « Non, je prie pas, de toute façon je sais pas prier, je connais aucune prière, donc je prie pas. » Et puis de nouveau un long silence, et puis au bout d'un long moment il me dit « Moi ce que je fais, c'est que tous les soirs, avant de m'endormir, je parle au Seigneur, je lui raconte toute ma journée, je lui dis merci pour tout ce qui a été beau, et puis surtout, je me blottis dans ses bras, et là, je me serre contre lui, et je suis tellement bien que je voudrais que ça s'arrête jamais, et je me serre contre lui, et je suis dans sa tendresse immense et dans son amour infini. » Voilà. Et il me dit, et ça peut durer 3 quarts d'heure, 1 heure avant que je m'endorme. Et, voilà. Et donc ce Samuel... qui venait de me dire qu'il ne priait pas et qu'il ne savait pas prier, vous voyez, me donne un témoignage d'une intensité inouïe, enfin, d'une prière hyper profonde, quoi, mystique, enfin, je ne sais pas comment la qualifier, mais vous voyez, donc ça, bon, donc ce Samuel en question, on lui a appris à faire un signe de croix, on lui a appris qui étaient Joseph et Marie, parce qu'il était très 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 loin de tout ça. Au bout de 4 ou 6 mois, il a commencé à parler du baptême. Et puis finalement, il a été baptisé dans le gymnase de la prison de la santé il y a 1 an et demi. Donc vous voyez, c'est ce genre de parcours, ce genre de... Quand je vous disais tout à l'heure qu'ils ont une compréhension du mystère de Dieu qui nous édifie, qui nous échappe, qui nous émerveille. Voilà.
Il faut peut-être qu'on a... Mathilde, il reste combien de temps?
20 minutes pour prendre les questions.
Oui, on va prendre les questions. Oui. On va prendre les questions. Vas-y.
Souvent, il y a plusieurs personnes dans la même cellule.
Ouais.
Donc, dans ce cas-là, comment est-ce que vous faites, surtout si c'est une personne en particulier qui demande à vous voir, pour à la fois pouvoir lui parler personnellement, sachant qu'il y a d'autres personnes qui écoutent, pas éviter les situations de tension ou que rien que ça heurte.
En fait, on a plusieurs possibilités. Soit si on veut vraiment rencontrer la personne seule à seule, on peut la sortir de sa cellule. Il y a des petits bureaux au rez-de-chaussée où on peut passer un moment. Soit le co-détenu n'est pas là à ce moment-là, il est en promenade, au gymnase, en extraction, etc. Donc selon les cas de figure, soit on reste en cellule, si c'est possible et si c'est approprié et pertinent, soit on peut sortir la personne et la voir à l'extérieur de sa cellule. Et on va toujours la chercher dans sa cellule.
Est-ce que vous êtes... plutôt favorablement par l'administration pénitentiaire? Est-ce qu'il vous facilite la tâche ou est-ce qu'il y a des négociations pour toi?
Ça, c'est pour toi.
Alors, c'est une très bonne question. Si vous voulez, avec l'administration pénitentiaire, il faut être vigilant. parce que on fait partie de la loi. De toute façon, il n'y a pas le choix. Les aumôniers doivent être représentés. Enfin, les aumôneries doivent être présentes. Donc, c'est une contrainte que les directeurs de prison doivent intégrer et qui est intégrée dans les modalités de fonctionnement des prisons. À côté, mais une fois qu'on a dit ça, il y a tout à faire. C'est-à-dire qu'il faut toujours être vigilant à ne pas se faire rabioter des droits. Par exemple, quand la santé a rouvert en 2019, après 5 ans de travaux, il y avait une directrice qui a été là pendant 18 mois pour rouvrir la prison, qui était, je pense, foncièrement anticléricale, et elle a limité ce qu'on appelle la jauge, c'est-à-dire le nombre de détenus autorisés à participer à la messe, à 20 personnes. Alors qu'il y avait, la santé était en train de se remplir, il y avait 800 personnes. Et donc, sur un sujet comme ça, d'abord, on essaye de discuter, puis quand on voit que c'est fermé, il faut user de levier. Là, en l'occurrence, on a fait faire une intervention par quelqu'un qu'on connaissait bien, qui a appelé le directeur de l'administration pénitentiaire nationale, et c'est retombé sur la tête de la directrice, qui a été obligée de passer de 20 à 60. C'est pas devenu tout à fait une copine après. Mais voilà, vous voyez, c'est ça. Là, par exemple, il y a une note de l'administration qui est sortie pour les grandes fêtes religieuses catholiques. Et c'est, il y a Pentecôte, la Toussaint, l'Assomption, Noël et Pâques. On a le droit d'amener des victuailles après la messe. Et c'est les 5-6 fois dans l'année où on peut demander essayer d'obtenir des jauges exceptionnelles. Donc là, par exemple, pour la messe de Pâques, on a demandé à passer de 60 à 80. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui... Ou bien encore...
En fait, il faut bien connaître ses droits pour pouvoir à la fois être dans une relation souple et, voilà, et en même temps de ne pas se faire marcher sur les pieds.
Enfin bon,
vous connaissez le sujet.
La même chose ici, hein.
C'est très différent et puis il y a des points communs.
Voilà.
Enfin, c'est quand même très difficile.
J'avais juste une autre question. Vous avez reçu une formation à l'accompagnement spirituel. Est-ce que vous avez une formation théologique derrière ou n'importe qui peut venir?
Non, il n'y a pas de prérequis obligatoire. Il n'y a pas un niveau en théologie dont il faudrait pouvoir attester. En fait, le principe, c'est que la première année, on ne tourne jamais seul. Donc, on est en binôme avec quelqu'un de plus expérimenté. Donc ça, en fait, c'est beaucoup une formation par l'exemple et sur le terrain. Ensuite, on a des formations au niveau de l'aumônerie régionale, on a des formations au niveau de l'aumônerie nationale. Donc, on a quand même plusieurs journées de formation obligatoires par an. Voilà. Mais il n'y a pas de... On a tous des niveaux, je dirais, académiques différents sur ces sujets-là. Il y en a qui ont des formations plus poussées que d'autres, etc. Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que le cœur de ce qu'on est appelé à vivre, c'est vraiment de l'écoute. C'est 95% d'écoute. Et puis c'est beaucoup de bon sens et de... Enfin, franchement, tous dans cette salle, vous seriez archi capables de faire le même boulot que nous, ce qu'on fait en prison. Il n'y a pas besoin d'un bagage théologique très, très costaud, enfin, même si c'est mieux de pouvoir répondre aux questions qu'ils nous posent. Mais... Et puis quand on ne sait pas, on dit je vous apporterai la réponse la semaine prochaine. Il n'y a pas de... On est rarement pris en défaut sur des choses très compliquées.
Merci beaucoup pour votre intervention. J'avais une question. Vous avez parlé de Samuel et vous avez dit qu'il était là pour 3 ans. Est-ce que vous savez pourquoi ils sont là, combien de temps ils sont là
Alors, on sait ce qu'eux veulent bien nous en dire. C'est-à-dire que par défaut, on ne sait rien. On n'a pas accès à leur dossier et on ne pose aucune question. Donc, et c'est la grosse différence entre nous et les surveillants et entre nous et l'administration pénitentiaire. Et ça, ils le savent et c'est précieux pour eux. Parce que du coup, ça leur laisse le choix et la liberté de nous dire ce qu'ils veulent, de nous baratiner complètement s'ils veulent. de nous dire les choses, de distiller des informations au compte-gouttes. Et puis il y en a qu'on connaît depuis 4 ans, on continue de se dire « mais qu'est-ce qui a bien pu l'emmener là, celui-là ?» Et puis inversement, il y en a, la première fois qu'on les rencontre, on sait tout dans le menu détail, minute par minute, de ce qui s'est passé. Et quelquefois, on préférait ne pas savoir. Donc il y a tous les cas de figure. Mais la règle, c'est on ne sait que ce qu'eux veulent bien nous en dire. Et on accueille leur vérité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vérité absolue. Il y a la vérité du dossier judiciaire, qui n'est pas toujours la même que la vérité factuelle de la vraie vie. Et puis il y a la vérité d'un moment. Et quelquefois, ils ne sont pas toujours capables de dire les choses clairement. Il faut un temps d'appropriation des faits.
Et surtout, parfois, ça n'arrive jamais.
Parfois, ça n'arrive jamais.
Par exemple, les délits sexuels, c'est des choses qui sont insupportables aujourd'hui pour les détenus, parce que même au sein de la détention, ils sont ostracisés par les autres.
Ils sont en danger, même.
Ils sont en danger. Et donc, la plupart du temps, ils ne le disent pas.
Ils s'inventent une autre histoire, en fait. Alors avec nous, quelquefois, le masque tombe et ça arrive qu'ils nous disent bah, « j'ai toujours dit que j'étais là pour ça, mais vous, je peux vous le dire ». Voilà, ça arrive. Et puis, il y a plein de cas de figure. Il y a celui qui t'avait dit un jour « mon juge, pour l'instant, dans le dossier, il y a ça. En vrai, il y a ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut que je soulage ma conscience et que je dise tout pendant mon interrogatoire, ou est-ce que vous pensez qu'il faut que je me taise et que je sois jugée sur 10% de ce que j'ai fait ?»
Voilà. Bonne question, hein. Et la réponse est, qu'est-ce que vous auriez répondu?
Laissez votre conscience parler.
Quoi?
C'est à votre voix, enfin, à vous de voir ça avec votre conscience.
C'est une formation jésuite.
Ça prolonge un peu ce que vous êtes déjà en train de dire, mais dans quelle mesure vous pouvez accompagner les détenus sur un chemin de reconnaissance de leurs fautes et de réhabilitation du coup intérieure et de leur conscience, pour qu'ensuite, si un jour ils sortent, que ce soit de manière, en sachant un peu ce qu'ils veulent essayer de ne pas faire, en tout cas.
Bah, de quelle manière, j'ai envie de dire, en prenant du temps. C'est-à-dire que c'est un chemin long. Et en acceptant que tout ne soit pas immédiat, que ce chemin... En fait, il y a le temps de la justice, et puis il y a le temps du pardon, de la réparation. Et tout ça, c'est des temps qui fonctionnent un peu en parallèle et qu'il faut essayer d'unifier. Et donc, c'est... Par exemple, la question du sacrement du pardon, le sacrement de réconciliation en prison, c'est une vraie question. Un détenu qui demande à recevoir le sacrement de réconciliation... On a eu un cas comme ça d'un garçon qui avait tué... quelqu'un et qui s'était ensuite enfui en cavale pendant 4 ou 5 jours caché dans la forêt, finalement se rend aux gendarmes, arrive à la santé en quartier isolé après 48 heures de garde à vue hyper éprouvante. Il était tout tremblant, il avait conscience de ce qu'il avait commis, il cherchait pas du tout à éluder son acte. Il disait, et je me souviens encore, ça m'avait marqué, il regardait sa main comme ça et il disait, qu'est-ce que je donnerais pour me couper la main et mettre cette main qui a tué loin de moi. Il supportait pas l'idée que cette main qui avait commis l'irréparable soit attachée physiquement à son corps, en fait, et soit vous voyez, donc cette espèce de voilà. Et ben ce garçon typiquement avait un besoin pressant de se confesser. Bon, et ben ça par exemple, c'est un vrai sujet de discernement pour nous, parce que à la fois on est qui pour reporter une demande de confession, et en même temps on veut pas non plus faire plus de, enfin comment dire, c'est délicat cette question, ce chemin prend du temps . Parce qu'on a aussi vu par exemple des détenus dire, moi de toute façon Dieu m'a pardonné, donc ce que pourra me dire le juge, je m'en fous. Vous voyez,
le problème, c'est que ça, les psychiatres aussi le disent. Il y a un prêtre dans notre équipe, donc tout ça, c'est en discernement à chaque fois avec lui. Mais le problème, c'est que si la confession est donnée trop tôt, le travail psychologique s'arrête. Parce que, comme vient de le dire Caroline, certains détenus ont un rapport à la règle très rigide, se disent « je suis en règle, je me suis confessé, maintenant basta, je réfléchis plus sur moi-même ». Donc c'est pour ça il y a une dimension du temps qui est importante et il convient de discerner à quel moment. Quoi.
Et parce que donner l'absolution, c'est pas rien, en fait. Et donc, typiquement, ce détenu qui avait cette demande très pressante, en fait, on est revenu le voir une fois par semaine au début, vraiment, parce qu'il avait un besoin d'accompagnement très intensif. Et puis, on a pris des textes d'évangile, on a beaucoup, beaucoup lu avec lui, partagé, etc., etc. Et en fait, le sacrement est venu longtemps après, des mois plus tard. Mais voilà, on l'a pas laissé tomber, on l'a suivi, mais on n'a pas accédé à sa demande tout de suite. Alors ça peut choquer parce qu'on se dit, mais on est qui pour mettre une distance entre voilà. Et en même temps, c'est une forme de prudence,
Tu avais une question depuis longtemps.
Non, ma question, c'est, j'imagine que la population carcérale est de manière écrasante composée d'hommes.
À la santé, c'est que des hommes. Ouais.
Donc, est-ce que vous avez une expérience différente entre vous deux dans leur façon de se livrer par rapport à s'ils sont en face un homme ou une femme?
Je pense que oui.
Oui, alors.
Moi, j'ai tendance à dire, de mon expérience, de mon vécu, j'ai tendance à dire que vis-à-vis d'une femme. Ils vont peut-être parler plus facilement de leur souffrance de ne pas voir leurs enfants, par exemple. Ils vont peut-être pleurer plus facilement. Ils vont peut-être plus laisser tomber un peu l'armure, quoi, la carapace.
Oui, c'est vrai.
Tu vois peut-être que ça arrive souvent qu'on me demande « vous avez des enfants ?» Voilà. Je pense qu'on vous le demande moins.
Jamais.
Tu vois, moi, pourtant, on en a jamais. Le même nombre. Mais voilà, moi, je pense que sur ce terrain-là, le fait d'avoir une femme en face d'eux, ça autorise quelque chose de... Et puis ce que j'ai constaté aussi, c'est que souvent, en fait, les femmes dans cet univers-là, c'est soit des juges, soit des avocates, soit des surveillants. Et en gros, les juges, c'est l'incarnation de l'autorité par excellence. L'avocate, elle est dans un rôle bien déterminé, dans une posture bien définie. Et la surveillante, en fait, la plupart des surveillantes qu'on voit, elles singent les hommes parce qu'elles veulent se faire respecter. Donc elles crient, donc elles parlent fort, donc elles marchent. Bon. Nous, on n'est pas du tout dans cette attitude-là. On est dans une attitude neutre, je dirais, où on est femme dans un milieu d'hommes. On n'est pas du tout, évidemment, dans une logique de rapport, de séduction ou quoi que ce soit. Évidemment que c'est pas du tout... Voilà. Mais en revanche, on est quand même dans une logique d'altérité. C'est-à-dire que, en fait, en étant femme en face d'eux, on leur permet de retrouver une forme de dignité, de redevenir homme, quoi. Enfin, et ça m'est souvent arrivé, par exemple, d'arriver sur une coursive, d'avoir trois ou quatre hommes en train de se parler hyper mal, de s'injurier, avec des noms d'oiseaux, et ça crie dans tous les sens, etc. Et pour peu que j'en connaisse un ou deux, en arrivant, je dis « Bonjour, messieurs !» et ou je les appelle par leur prénom, si je les connais. Le simple fait, en fait, d'intervenir à ce moment-là, même physiquement, ils se redressent et ils changent de ton. C'est comme s'ils voulaient montrer le meilleur d'eux-mêmes en présence d'une femme. Il y a un peu de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, ouais. En fait, c'est très complémentaire. On est très...
D'ailleurs, on visite régulièrement à deux parce que l'écoute n'est pas la même. Caroline voit des choses que je ne vois pas et vice-versa. Donc, c'est très complémentaire.
Ma question est peut-être stupide, mais vous n'avez pas peur? Est-ce que parfois il y a...
C'est une très bonne question.
Non, c'est une question qu'on nous pose souvent. Moi, je n'ai jamais eu peur en prison parce qu'en fait, c'est un univers très violent. On voit souvent des accès de violence. On voit des bagarres, on voit des gens plaqués au sol, on voit des gens menottés qui partent au quartier disciplinaire. Tout ça, on le voit à 1,50 m de nous. Mais cette violence, elle n'est jamais tournée contre nous. Nous, on est plutôt hyper bien accueillis, avec beaucoup de déférence, beaucoup de respect. Et on se sent plutôt, au contraire, très respectés. Donc moi, je n'ai jamais eu peur. Il y a un moment où je me suis sentie pas complètement à l'aise, mais ça a duré que 20 minutes, c'est quand je me suis fait enfermer dans une cellule. Bon, voilà, là, mais c'était une erreur, ça n'aurait pas dû se produire. Et...
enfermé dans une cellule avec un détenu.
Ah oui, avec un détenu, ouais.
Avec un détenu.
Mais que je connaissais bien, donc bon. J'ai fait comme si de rien n'était, j'ai continué à parler comme si de rien n'était. J'ai juste regardé ma montre discrètement en me disant si dans un quart d'heure personne n'arrive, je déclenche mon... Parce qu'on a un panic button dans la poche, quand même. Mais quand je l'ai déclenché, il s'est encore passé 17 minutes, donc... Ouais, non, non, mais bon. C'est... Non, non, mais en vrai, on n'a pas peur parce que les situations sont pas...
C'est un environnement qui est quand même sécurisé quand les surveillants voient quand on arrive à l'étage. Parfois, ils nous demandent dans quelle cellule on va. Donc voilà, ils nous repèrent. Donc en principe, il n'y a pas de problème.
En principe.
Après, il faut être toujours vigilant. Ça.
Oui, non, mais en revanche, il y a des choses très claires. Par exemple, on ne s'assied jamais sur un lit. On ne se met jamais entre le détenu et la fenêtre. On reste toujours du côté de la porte. Vous voyez, il y a des choses qui sont instinctives, en fait, qui sont... presque de l'ordre de la survie, quoi. Enfin, des... Non, mais il y a des choses qui sont... Par exemple, je vais jamais, jamais, jamais me mettre en position basse par rapport à un détenu, par exemple. Si je veux lui montrer comment fonctionne le Magnificat ou lui expliquer où se trouve la prière du soir ou je sais pas quoi, je vais... si le détenu est assis comme vous, je vais me mettre comme ça, par exemple. Je vais jamais me mettre en dessous de lui physiquement. Vous voyez, enfin, c'est des choses comme ça, mais c'est dans la posture physique qu'on adopte vis-à-vis d'eux, on est hyper vigilant. Ouais.
Promenade,
ouais.
Ben, le problème, si vous voulez, à la santé, mais dans toutes les prisons, il n'y a pas assez de boulot. Il n'y a pas assez de travail. Et donc, quand vous avez des jeunes, on en parlait à table, les jeunes qui passent leur journée en train de fumer des chichons, allongés sur leur lit et de regarder du BFM TV 22 heures sur 24, c'est dramatique pour la réinsertion. Alors que s'ils avaient une place dans un atelier, s'ils pouvaient bosser, d'abord ils gagneraient un peu d'argent pour la sortie, ils auraient une utilité sociale. Et ça, c'est vraiment un problème majeur dans la prison en France aujourd'hui.
C'est qu'ils ne sont pas occupés.
Est-ce que vous avez le droit de garder des liens avec les détenus une fois qu'ils sont sortis? Est-ce qu'il y en a qui le demandent? Est-ce que ça vous arrive?
La règle, c'est qu'on est aumônier pour la détention. En fait, la raison d'être de notre présence en détention, c'est qu'ils sont privés de liberté, et c'est la continuité de la liberté de culte. Donc, à l'extérieur, ils sont libres de rentrer dans une église, dans un temple, dans une mosquée, dans une synagogue, où ils veulent. Et donc, nous, on est vraiment aumôniers pour la détention. Donc la règle, c'est qu'on ne doit pas entretenir de contact avec l'extérieur. On n'a pas le droit de contacter leur famille. On n'a pas le droit de leur donner leur nom, nos noms. Nous, ils connaissent que nos prénoms. Ils connaissent pas nos noms de famille. Ils savent pas quelle est notre paroisse, notre domicile, tout ce qu'on veut. Et donc vraiment, on essaye d'être assez strict là-dessus parce que c'est une règle qui nous protège, en fait. C'est une règle... On a quand même un certain nombre de... cas qu'on n'aurait pas forcément très très envie de recroiser à l'extérieur. Donc bon, voilà, c'est... Non, mais alors après, là où votre question soulève quand même un vrai gros sujet, c'est que ceux qu'on a beaucoup suivis à l'intérieur, pour qui on a eu un accompagnement plus personnalisé, plus riche, ceux qu'on a baptisés par exemple en prison, ça nous fend le cœur en fait quand on sait qu'ils vont partir. Et donc la question qui se pose très souvent, c'est... Non mais ça, on est hyper heureux pour eux, mais la question qui se pose très souvent, c'est à qui on les confie, vers qui on les envoie. Et donc, on a une question récurrente, nous, qui c'est dans le diocèse de Paris, quel est le lieu approprié pour ces personnes? Quelle est la paroisse qui est en capacité d'accueillir ces populations très cabossées? Et où est-ce qu'ils vont se sentir bien? Où est-ce qu'ils vont rencontrer des gens accueillants? Et donc, voilà. Donc, on est tout le temps en recherche. On a deux, trois pistes comme ça d'endroits où on...
Parce que vous savez, le détenu qui se présente auprès de la femme âgée qui fait l'accueil de la paroisse, je sors de prison. Attendez, je vais chercher monsieur le curé. Elle court de manière affolée chercher le curé. Et c'est dramatique. Donc il y a vraiment besoin d'un endroit où il puisse être accueilli. Et bon, et cette question, elle n'est pas encore complètement résolue sur le diocèse. Mais comme dit Caroline, il y a deux paroisses dans lesquelles on connaît des détenus, des curés ou des vicaires.
Des prêtres qui viennent célébrer en prison, par exemple.
Célébrer
ça,
en
c'est un
prison,
bon pont entre les deux.
Qui savent comment se comporter.
Ouais.
Vous disiez, je reprends l'exemple de Samuel, qui a dû faire des grosses bêtises, vous disiez, et qui pourtant, il a vraiment ce mystère de Dieu au fond de lui.
Ouais.
Quand vous expliqueriez cette sorte... de d'apposition où d'un côté, bah, il a vraiment envie de faire le bien au fond de lui et tout, mais d'un autre côté, il fait quand même des grosses bêtises qui finalement font vraiment bien autour de lui.
C'est Saint Paul. Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. C'est extrêmement frappant avec certaines personnes. Alors c'est le mystère du Seigneur, hein, et c'est ce qui est pour nous aussi très beau et très émouvant, hein, de contempler dans une personne qui a fait des choses affreuses, qui a fait du mal, en même temps des fenêtres par lesquelles il y a de la lumière et le Seigneur passe. Et ça, enfin, pour moi en tout cas, c'est ce qui justifie, ce qui me motive dans cette mission. Oui, on peut dire qu'on contemple ça, parce que c'est incompréhensible. Et c'est vraiment toute le mystère du Seigneur, le mystère de la force du Seigneur, et c'est se dire aussi que cette personne, quoi qu'elle ait fait, ben, le Seigneur est là, le Seigneur l'accompagne, le Seigneur se fait connaître. Ça remplit d'espérance. On est dans le jubilé de l'espérance, et c'est vraiment ça, hein, c'est l'espérance vécue au quotidien au travers de ces personnes cabossées qui, en même temps, ont rencontré le Seigneur pour certaines d'entre elles et nous éblouissent.
Moi, je souscris pleinement et j'en remets une couche. Ça fait, moi, 5 ans et Jean, 7 ou 8 ans ou 10 ans, je ne sais pas combien. Depuis 5 ans, j'affirme que je n'ai jamais autant été dans l'espérance que depuis que je passe du temps en prison. C'est mystérieux, hein, parce que, en fait, on touche du doigt, on est les témoins oculaires directs de l'action de Dieu dans la vie de ces gens-là. Et quand vous voyez Dieu à l'œuvre, quand vous constatez de vos yeux une conversion, une illumination, un élan du cœur, quand vous touchez ça du doigt, que vous voyez, enfin voilà, que vous pouvez dire, oh, bah ouais, Seigneur, je vois que tu agis aujourd'hui. Et ben, en fait, vous avez cette conviction profonde, bah, que Dieu agit, qu'il y a un pilote dans l'avion, et en fait, ça, voilà, c'est bon, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est un antidote à la désespérance ambiante. Vous voyez,
oui, c'est ça. Et que si vous voulez, par rapport à toute cette ce tumulte médiatique qui cloue au pilori des personnes qui ont, enfin, voilà, qui ont fait des choses abominables, mais voir que le Seigneur les touche, est à l'œuvre chez eux, bah, ça montre qu'il y a quelque chose. Voilà, il y a un salut possible, il y a une rédemption possible. C'est vraiment la source de notre espérance. Ouais.
Une question un peu inverse. Est-ce que ce sont aussi des lieux qui parlent de Satan? Est-ce que quand vous regardez ces parcours, tout bien pesé, on a l'impression aussi un peu d'une malveillance à l'œuvre dans le monde? Ou est-ce qu'on a l'impression de gens qui ont fait des mauvais choix? Et puis,
alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, hein, mais c'est vrai que souvent, des gens qui ont fait des meurtres, hein, et puis des meurtres de manière épouvantable, souvent ils ont touché à de l'occultisme, à des pratiques sataniques, etc. Ça oui. Ça oui. Alors maintenant, jusqu'où ça explique leurs gestes, je ne sais pas le dire, mais c'est vrai, ça on le voit. Et là, avec un membre de l'équipe, on a rencontré cette semaine un détenu. Moi, j'étais horriblement, je sais pas, il m'a dérangé. Il a pas dérangé, heureusement, mon coéquipier, donc qui était beaucoup plus à l'aise pour le dialogue. Et en fait, on s'est dit après, cet homme qui s'est pris une peine de 20 ans, on pense qu'il a fait un meurtre sacrificiel, probablement avec un enfant. Parce qu'il avait tout ce qu'il fallait tatouer là, etc. Bon. Et jusqu'où est-ce que maintenant il a recouvré sa liberté spirituelle? Pas possible de le dire. Mais bon, c'est un cas très rare. Hein. J'en ai rencontré un une fois, voilà, cette semaine.
Mais les forces du mal sont puissantes, ça c'est une certitude. Mais le Christ a vaincu une fois pour toutes.
Oui. Voilà.
Ça, c'est notre...
J'ai deux questions. Je veux savoir, tout d'abord, comment vous accompagnez les détenus dans une marche vers le pardon, où la vie peut être longue et plus longue qu'ils le voudraient, alors qu'ils sont en prison, où l'objectif pour la société n'est pas le pardon, mais la punition, éventuellement la réintégration. Est-ce que c'est difficile pour les détenus d'articuler ces deux fonctions qui sont une contradiction que vous pouvez incarner quand vous intervenez dans leur cellule? Ça avait été venu quand vous aviez dit, vous aviez un détenu qui disait, qui se demandait s'il fallait qu'il avoue, qu'il avait fait les choses bien pires. Pour moi, la réponse est non, c'est bah oui, parce que la repentance n'a pas de sens sans conséquence. Je me demandais si c'était contradictoire.
Moi, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi j'ai envie de dire que le chemin de pardon, il commence par le fait de se pardonner à soi-même. Et bien souvent, une grosse partie du travail qu'on fait, nous, en tant qu'aumôniers, c'est sur cette partie-là. C'est sur le fait de se pardonner à soi-même. Et comment se pardonner à soi-même si on n'accueille pas le regard aimant de Dieu sur nous ? Voilà. Donc, nous, en fait, nous, c'est plutôt là-dessus, en fait, qu'on intervient. C'est sur cette dimension de leur faire comprendre, de leur faire vivre, de leur faire toucher du doigt que Dieu les aime de manière inconditionnelle, indépendamment de la gravité de leurs actes. Et c'est... c'est vraiment là-dessus qui est en fait le préalable à tout chemin de pardon. C'est d'abord de faire l'expérience de l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'on a intitulé cette conférence « Cœur à cœur derrière les barreaux » et en fait, il y a presque un double sens. C'est-à-dire que c'est cœur à cœur entre le détenu et l'aumônier, ça c'est certain, parce qu'on est les récipiendaires de confidences inouïes et d'une intimité qui nous tombe dessus comme ça. Mais je dirais c'est encore plus, enfin moi en tout cas, cœur à cœur entre le détenu et le Seigneur. C'est ça qu'on cherche à faire vivre. Le fond de notre raison d'être, de notre mission en prison, c'est de les mettre en présence de Dieu. C'est qu'ils expérimentent l'amour de Dieu pour chacun d'eux. Et donc, c'est ce cœur à cœur-là qui est la clé, en fait, de tout le reste. Et on a des exemples de détenus. Je pense à un gars qui s'appelle Lambert, qui a vécu ça, qui a vécu cette conviction hyper ancrée, hyper profonde, que Dieu l'aimait plus que tout et l'abandonnerait jamais. Ce gars est devenu d'un zèle incroyable. Il avait pris 17 ans ou je sais pas combien. Il nous a dit « Je me suis jamais senti aussi libre qu'ici ». Vous voyez ? Donc et il est devenu
le meilleur évangélisateur de la prison.
Non, mais vraiment.
Dingue.
Incroyable.
Et quand il y en avait un, il y avait un détenu qui sortait de son procès où il s'était pris 10 ans, Lambert lui disait « Mais mon vieux, ça n'a aucune importance que tu aies pris 10 ans ou 15 ans ». L'essentiel, c'est que tu vives au jour le jour avec Jésus. Je veux dire, moi, je ne me sens pas de dire ça. Hein. Mais quand Lambert disait ça, ah, le détenu, il était bouche bée.
C'est pour ça, nous, notre rôle, c'est vraiment de favoriser ce cœur à cœur. Et un exemple d'un moment, moi, qui m'a marqué, par exemple, avec le Samuel dont on parlait tout à l'heure. Samuel, c'était quelqu'un de très agité, qui bougeait tout le temps, qui parlait beaucoup. C'est difficile de le canaliser, d'avoir une capacité, une concentration, une qualité d'écoute. Et un jour, on s'est dit, comment on va faire là pour lui donner un peu voilà. Et on s'est dit, mais en fait, après tout, peut-être que ce dont il a besoin, c'est qu'on le mette en présence de Dieu. Et donc, on lui a dit, Samuel, ce qu'on vous propose la semaine prochaine, au lieu de prendre un texte comme on fait d'habitude, les disciples d'Emmaüs, la Samaritaine, etc., etc., on en avait déjà fait une flopée dans le cadre de sa préparation au baptême, on lui a dit, Samuel, la semaine prochaine, on vous propose une séance de prière. On va venir dans votre cellule et on va passer 20 minutes, une demi-heure, en prière silencieuse, tous les deux, ensemble. Et donc, évidemment, on n'a pas le droit de mettre une bougie, parce que voilà. Et donc, on a mis une image, j'avais apporté une image d'une icône que j'ai accrochée sur le mur de sa cellule. Et on a commencé en prière un peu guidée, donc moi je parlais à haute voix, j'ai introduit la prière, voilà. Et ensuite on a passé 20 minutes en silence, Samuel n'a pas bougé, j'avais jamais vu ça, hein, franchement, Samuel n'a pas bougé, et voilà, et on a vécu, en fait on a prié l'un à côté de l'autre. Et c'est ça, quand je dis favoriser ce cœur à cœur, ça veut dire que il ne s'agit pas de moi, vous voyez bien, en fait nous on est très dépouillés dans cette mission, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais de nous. On parle jamais de enfin, il s'agit pas de nous, en fait. Il s'agit de mettre la personne qui... ouvrir une espérance dans sa vie et la placer sous le regard du Seigneur. Voilà, c'est vraiment en résumé. Ouais.
Il nous reste combien de temps, Mathilde?
C'est fini.
Nous, on n'est pas pressés, hein, on peut rester 5 minutes.
En fait, c'est assez ironique. Combien de temps est-ce que vous pouvez passer avec les détenus? On vous donne un lot de 20-30 minutes.
Non, si personne heures, contrôle. Rester... On peut rester 2 heures si on veut rester 2 heures. Si on veut voir une personne dans toute la matinée, ça tient qu'à nous. On n'a pas de compte à rendre à personne. On reste le temps dont ils ont besoin.
Quel est votre rapport aux autres religions? Parce que j'imagine que vous avez dit qu'il y a plusieurs années d'autres religions. Et même, est-ce qu'ils vous en parlent, etc. Et même avec les autres aumôniers des autres religions.
Alors ça, ce sera une autre conférence, peut-être. Non, parce que c'est un vaste sujet. Ouais, c'est un vaste sujet.
Bon, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec les protestants, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, là, on a fait une célébration commune. Enfin bon, on est vraiment dans le communisme, frères dans la foi. Et d'ailleurs, les détenus passent du groupe biblique protestant au groupe biblique catho. Il y en a qui viennent à la messe. Bon, je pense qu'il y en a qui communient. Bon. Voilà, c'est un non-sujet. C'est avec les musulmans. Et là, avec les musulmans, donc on est dans l'interreligieux. Et ça dépend de l'imam. Alors, il y a deux imams à la santé. Et il y en a un qui n'y est plus, malheureusement, qui est vraiment devenu un de mes amis. Et qui est un homme extraordinaire. C'est un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de foi et d'une tolérance totale. Enfin bon. Et qui sème ça autour de lui. Aujourd'hui, il y a deux moitiés d'imams. Et donc, il y en a un qui est dans la même lignée que le précédent, l'autre avec lequel c'est plus difficile. Mais on essaye d'avoir les meilleures relations possibles. Hein. Et quand on voit le problème des imams à la santé, dans la religion musulmane, la miséricorde n'a pas la place qu'elle a chez les chrétiens. Et donc, un détenu, il a fait une connerie, il doit payer aux yeux de Dieu. Et donc, il y a très peu de volontaires bénévoles pour aller visiter les détenus musulmans, il n'y en a pas. Donc, il n'y a que des imams qui sont payés des queues de cerise. Et donc, du coup, il y a environ 80% de détenus musulmans à la santé.
Ils sont très livrés à eux-mêmes.
Ils sont complètement livrés à eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que les malheureux imams, ils ne peuvent pas voir les gens, ils ne peuvent pas difficilement les rencontrer individuellement comme nous, tellement ils sont nombreux. Donc ça pose vraie question. Et quand on voit un détenu musulman en détresse, on le signale à l'imam, et régulièrement, si l'imam ne peut pas le voir, on va le voir. Mais on essaie de nouer des liens avec les musulmans et avec les imams. Je crois que c'était la dernière question.
Est-ce que je peux dire un mot? Je voulais juste vous dire un mot de conclusion parce que on s'apprête à rentrer dans la semaine sainte. Et je réfléchissais tout à l'heure, je me disais, mais qu'est-ce que je pourrais leur dire pour leur dire en quoi ça m'a touché, cette mission en prison? Qu'est-ce que ça a fait bouger dans ma vie de foi, dans ma vie intérieure? Juste pour vous partager ça. En fait, je crois que ça se résume en une phrase, c'est que ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi Jésus est mort sur la croix. Et je vous invite juste à méditer ça si vous allez la semaine prochaine au chemin de croix du Vendredi Saint. Parce que vivre un chemin de croix en prison, c'est d'une intensité inouïe et c'est très 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 étonnant les nombreux parallèles entre ce que Jésus vit dans son chemin de croix et ce que vivent les détenus. Quand Jésus est dépouillé de ses vêtements, les détenus ils prennent ça pour une fouille à corps, quoi. Eux ils sont très souvent en fouillés à corps. Quand Jésus tombe sur le bord du chemin, tombe une deuxième fois, tombe une troisième fois, c'est la récidive, c'est la chute, c'est on recommence. C'est... Quand Jésus rencontre sa mère sur le bord du chemin, le nombre de détenus qui nous parlent de leur mère dans la salle d'audience le jour de leur procès, le regard de leur mère sur eux, etc., etc. Quand Jésus est condamné, vit son procès, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont leur vécu le plus profond, le plus douloureux. Et vraiment, quand on dit que Jésus est mort sur la croix pour nous rejoindre, pour qu'aucun homme sur terre ne puisse jamais se dire que Jésus est étranger aux souffrances qu'il traverse, eh ben, en prison, ça prend tout son sens. Vous voyez ? Et donc voilà, je vous laisse juste avec
Merci beaucoup.